Le journal est présenté par Anaïs Feugat. Bonsoir.
Bonsoir. Passage restreint à la frontière entre l'Allemagne et la France. À partir de mardi, Berlin classe la Moselle en zone Covid à haut risque. Nous serons avec les frontaliers. À camoufler pour le gouvernement la convention climat sévère face aux mesures prises pour lutter contre le changement climatique. Dans ce journal aussi, le Japon sur la piste de complice de l'évasion de Carlos Ghosn. Et puis du football. Strasbourg mène sur la pelouse du leader Lille 1-0. Frais mais beau. Météo France en fin de journal.
France Inter.
C'est un imbroglio dans lequel la crise du Covid nous a habitués à plonger depuis un an. Voici aujourd'hui 16 000 travailleurs frontaliers mosellans suspendus à des négociations entre responsables allemands et français. Devant l'accélération de l'épidémie en Moselle, Berlin a en effet décidé de placer le département français en zone rouge. Conséquence, pour aller en Allemagne à partir de mardi, il faudra présenter un test négatif. Mais à Sarreguemines, près de la frontière, c'est encore la confusion ce soir. Natacha Cadur de France Bleu Lorraine Nord s'y est rendue.
Ici, les habitants sont habitués à vivre des deux côtés de la frontière comme dans une boucle d'échange permanent, à commencer par Robert, ouvrier du groupe Michelin. Il travaille en Allemagne depuis 30 ans.
C'est une partie de notre ville. On y travaille, on dépense notre argent et c'est pas normal parce que le virus il passe la frontière. L'année dernière, à pareille époque, à l'usine, il y avait plus d'ouvriers. On travaillait sous deux postes au lieu de travailler sur quatre. Et cette année, on n'est pratiquement pas touché au niveau des maladies. Et cette année, ils nous cassent les pieds.
Lors du premier confinement, les frontières avaient été fermées des deux côtés. Pour Dominique, boulanger dans le centre-ville, au moins c'était clair.
C'était psychologiquement plus facile à vivre. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. On ne sait pas est-ce qu'on va se faire arrêter. Mais bon, nous, on le ressent au niveau de la clientèle. Parce qu'on a beaucoup plus de gens qui restent sur Sarreguemines. Donc automatiquement, qui achètent plus.
Si les travailleurs ont encore l'espoir d'être épargnés, les frontaliers qui se déplacent pour leurs courses ou leurs loisirs, comme Mike, sont un peu plus résignés.
J'allais souvent en Allemagne quand même pour faire des balades comme ça, j'aimais bien. C'est sûr, si on doit faire tout le temps les tests là, moi je passerai plus la frontière. Hein, parce qu'après, tout le temps la tige là dans le nez, non, je resterai après chez moi, dans ma ville, je ferai les courses ici, hein, on verra bien.
La plupart sont réduits à espérer que le temps fera son œuvre pour permettre un jour un retour à la vie normale.
Et tout se cache donc dans les détails. A priori, pas de fermeture de frontière avec la Moselle comme avec le Tyrol ou la Tchéquie, mais des contrôles aléatoires. Des discussions sont encore en cours pour savoir si les tests antigéniques suffisent et s'il faut en présenter un tous les jours ou tous les deux ou trois jours. Ailleurs en France, Toulouse ferme pour une semaine ses lieux de promenade et de pique-nique pour éviter l'accélération de l'épidémie qui, de l'avis de tous, ne sera enrayée qu'avec une vaccination massive. Un quatrième vaccin pourrait bientôt être administré en Europe, celui de Johnson & Johnson, unidose, stockée dans un simple frigo. Autorisé en urgence aux États-Unis, l'Agence européenne du médicament devrait en faire bientôt de même. Si toutes les commandes européennes sont honorées, la France en recevrait 77 millions de doses d'ici à fin juin. Les États-Unis qui envisagent de vacciner les enfants de moins de 12 ans dans un an. Pour l'instant, pas de vaccin autorisé pour les moins de 16 ans, mais les études ont été lancées. France Inter, il est 18h03. Va-t-on diminuer d'au moins 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 10 ans en France? La réponse est non. En tout cas, pas avec les mesures prises par le gouvernement. Sanction sans appel de la Convention citoyenne pour le climat, appelée à évaluer pour sa dernière session aujourd'hui les mesures prises par l'exécutif. Résultat insatisfaisant, avec une note de 2,5 sur 10. Bonsoir Célia Quiret.
Bonsoir Anaïs.
Et avec cet exercice inédit de démocratie participative, les 150 citoyens se disent déçus par la traduction de leurs propositions.
Oui, c'est un mauvais bulletin qui en dit long sur le contenu du projet de loi, trop faible à leurs yeux. Les notes sont globalement situées entre 2 et 4 sur 10, avec une moyenne générale de 3,7. Exemple, ce projet de loi peut-il limiter les effets néfastes du transport aérien? La note donnée par les citoyens est 2,8 seulement. Idem sur les alternatives à la voiture individuelle. À peine mieux pour les mesures sur le logement et la rénovation globale des bâtiments. La note est 3. Concernant l'alimentation ou la consommation, c'est un peu mieux. On arrive à 4 sur 10. Mais les notes au-dessus de la moyenne sont exceptionnelles. La modification de l'article 1 de la Constitution pour y placer l'environnement en priorité a obtenu 6 sur 10. La note est bonne car le président a bien promis un référendum. Encore faut-il que les parlementaires le valident. Mais globalement, les citoyens ont voulu être sévères parce que le texte n'est pas à la hauteur de leur mandat. Seule note satisfaisante, ils saluent une magnifique expérience et ils jugent très positivement l'existence même de cette convention citoyenne. Ils estiment que le recours à ces conventions est bien de nature à améliorer la démocratie avec une note sur ce sujet de 7,7 sur 10.
Et ce soir, le ministère de la Transition écologique se dit pas surpris. Le Haut Conseil pour le climat avait déjà critiqué le plan sur la rénovation énergétique. Le photographe de l'Union de Reims, blessé hier alors qu'il était en reportage, est toujours en réunion réanimation à l'hôpital. L'homme de 65 ans s'était rendu dans le quartier de la Croix-Rouge pour couvrir un attroupement de jeunes. Dans des circonstances encore très floues, il a été retrouvé blessé au sol. Le parquet de Reims a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. L'Élysée a contacté sa rédaction pour lui faire part de son émotion et sa sympathie et son souhait de voir ses agresseurs interpellés au plus vite. Nous serons sur place dans le journal de 19h. En Birmanie, la junte militaire a enclenché l'usage de la force contre les militants pacifistes. Répression sanglante aujourd'hui, un mois après le coup d'État et la vague de protestations civiles. L'ONU parle d'au moins 18 personnes tuées aujourd'hui. Il est tranquille au Liban, malgré un mandat d'arrêt international. Carlos Ghosn enfuit du Japon depuis plus d'un an. Et pourtant, les enquêteurs japonais ne lâchent pas le morceau. Deux de ses complices sont sur le point d'être arrêtés à Tokyo, Karine Nishimura.
Effervescence dans les médias japonais. Une quinzaine d'officiers de justice du Japon ont atterri ce dimanche à Boston, aux États-Unis. Le but de cette équipe est ramener au Japon l'ex-béret vert Michael Taylor et son fils Peter, tous les deux soupçonnés d'avoir aidé Carlos Ghosn à se sauver du Japon fin 2019, alors qu'il était en liberté conditionnelle en attente de procès pour malversations diverses. Les deux Américains Taylor avaient été arrêtés aux États-Unis en mai dernier à la demande du Japon. Ils ont désormais épuisé tous les recours susceptibles d'empêcher la justice américaine de les remettre aux autorités japonaises. Si tout se passe comme souhaité par la partie nippone, ils devraient arriver au Japon d'ici quelques jours et être placés en garde à vue pour subir des interrogatoires durant 3 semaines, à l'issue desquelles sera décidée leur mise en examen si les enquêteurs japonais estiment qu'elle se justifie. Tokyo, Karine Nishimura pour France Inter.
Lui vient d'être transféré à 200 km de Moscou. Alexei Navalny, arrivé dans une colonie pénitentiaire où il va purger 2 ans et demi de prison. On était sans nouvelles depuis son départ jeudi de sa prison moscovite. 27e journée de Ligue 1 de football et voilà qu'on se prend à se passionner pour ce championnat sans supporters dans les stades mais avec des équipes qu'on n'attendait pas. Lyon 3e joue ce soir à Marseille et Lille, le leader, reçoit Strasbourg. François Launay, la seconde mi-temps vient de débuter alors que Strasbourg mène.
Effectivement, 48 minutes de jeu et à la surprise générale, Strasbourg mène 1-0 sur la pelouse du LOSC, leader de Ligue 1, qui aimerait maintenir l'écart avec ses poursuivants Monaco et le Paris Saint-Germain qui ont gagné ce week-end, mais également Lyon qui dispute ce soir un match sur la pelouse du Stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. C'est très compliqué pour les hommes de Christophe Galtier dans cette rencontre. Mené au score depuis la 36e minute, un but de Ludovic Ajorc qui a repris dans la surface de réparation d'une reprise de volée, un magnifique centre de Gilbert, mais il n'y en a rien pu faire et Lille surtout est passé tout près de la correctionnelle avec une énorme occasion à l'instant, une frappe de Bellegarde partie dans le dos de la défense lilloise qui passait juste à côté des buts de Mike Maignan. Soirée très compliquée pour l'instant pour le leader de Ligue 1 qui espère se ressaisir pour conserver sa place de premier du championnat, mais c'est vrai que pour l'instant les hommes de Christophe Galtier ont d'énormes difficultés face à une équipe de Strasbourg qui lutte pour le maintien et qui pose énormément de problèmes aux nordistes.
1-0, merci François. En bref, enfin, ce coup de chapeau au skieur Mathieu Fèvre qui remporte le géant de Bansko en Bulgarie. Et puis ce coup de pression sur la Fédération française de rugby sommée par la ministre de Rente. Ses conclusions pour le foyer épidémique au coronavirus. Rapport attendu en milieu de semaine.